Et oui, ça nous change du Covid. Leur existence a été dévoilée le 14 novembre dernier, sans sarcophage vieux de plus de 2000 ans, dans un état quasi intact. Ils ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, c'est au sud du Caire, en Égypte. Alors nous avons la chance d'avoir une égyptologue à Toulouse. Elle est avec nous ce matin pour nous dire ce que cette découverte a d'exceptionnel. Bonjour Amandine Marchal.
Bonjour.
Vous êtes docteur en égyptologie et vous êtes également conceptrice de deux chaînes d'égyptologie, Toutankhatube et Néfertitube, dont nous aurons l'occasion de reparler à la fin de notre entretien. D'abord, la découverte. Face à l'égyptologue, je me sens toute petite. Est-ce qu'on peut resituer, s'il vous plaît, Amandine, le contexte historique? Dans quelle époque sommes-nous?
Alors là, on est à la basse époque. La basse époque, ça peut prendre 664 et 332 avant Jésus-Christ. Donc, pour vous situer par rapport à des pharaons qui sont relativement connus, c'est
Et oui.
après Ramsès II, c'est après Toutankhamon, c'est après Akhenaton et Néfertiti.
Après les pharaons que nous connaissons. Et alors, dans quel état ils sont, ces sarcophages que l'on a retrouvés?
Alors, juste une petite précision, il vaut mieux employer le terme de cercueil, le terme de sarcophage. En fait, normalement, on doit l'employer que pour des cercueils qui sont en pierre, ce qui n'est pas le cas ici. On est sur des cercueils qui sont en bois, des cercueils qui sont exceptionnellement bien conservés. On en a donc un peu plus d'une centaine qui ont été découverts. Et en fait, c'est ce qui fait que c'est exceptionnel, parce que des cercueils de ce type, on en sort, on va dire, régulièrement. Par contre, autant sur un même endroit et de façon aussi bien conservée, c'est vraiment quelque chose qui est très très rare.
Alors, vous faites une distinction, on va peut-être s'y attarder, entre cercueil et sarcophage. Sarcophage, c'est le mot qui a été repris abondamment. Vous nous dites que ce n'est
Oui.
pas le bon mot. C'est quoi exactement la différence?
Alors, en fait, vraiment, un cercueil en pierre, c'est un sarcophage. Pour beaucoup de gens, en fait, le sarcophage est égyptien, mais en fait, c'est le terme qu'on emploie aussi pour les cercueils de pierre, par exemple, qu'on trouve au Moyen-Âge. Le terme, en fait, cercueil, on va pour les, donc le terme cercueil, on va l'employer pour donc tout ce qui est bois. Alors attention, c'est pas parce qu'un cercueil est en bois qu'il est de moins bonne qualité. On a des cercueils égyptiens qui viennent qui sont faits en bois de cèdre. Le bois de cèdre vient du Liban, donc ce sont des cercueils extrêmement coûteux. Et dans le même temps, on a aussi des cercueils qui sont en bois locaux, qui ne sont pas forcément des bois d'ailleurs de très très bonne qualité. Donc un cercueil de bois ne veut pas dire mauvaise qualité ou moins bonne qualité que la pierre. Et on a également, notamment à l'époque de la basse époque, des cercueils en cartonnage. Le cartonnage, ce sont en fait des feuilles de papyrus qui sont collées les unes contre les autres, donc avec toutes sortes de résines. On va les recouvrir de plâtre et on va en fait les décorer. Donc des cercueils qui sont beaucoup moins coûteux, mais qui sont par ailleurs plus fragiles. Et alors, si je peux me permettre une petite parenthèse, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'en Égypte ancienne, tout à fait au début, les premiers cercueils, en fait, ont une forme de boîte, une forme rectangulaire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont censés représenter la seconde maison de la personne, donc la maison du mort, finalement. Donc, côté royal, on va avoir, en fait, des décorations qui rappellent les façades de palais égyptiens. Et côté élite, on va avoir donc quelque chose d'un peu plus simple, mais qui rappelle donc la maison de l'Égyptien. Donc, au départ, en fait, la conception funéraire fait du cercueil la maison du mort, et par la suite les choses vont évoluer et le cercueil va de plus en plus prendre et même supplanter la forme de ce cercueil en type boîte pour prendre une apparence humaine. Donc c'est ce qu'on appelle les cercueils anthropomorphes, donc ils ont une forme complètement humaine, et en fait à partir de ce moment-là le cercueil est un double du défunt.
Et ça signifie quoi ça?
Voilà, c'est tout simplement un double, c'est une espèce d'enveloppe qui est censée protéger le mort, mais qui donc n'a plus la même portée, la même fonction symbolique qu'auparavant. Ce n'est plus considéré finalement comme sa maison.
Et ça, les cercueils que l'on a trouvés, ils ressemblaient à ça, hein. On les voit,
Oui,
hein,
tout à
des
fait.
jolis cercueils. Ouais.
Tout à fait. Alors après, c'est vrai que ces cercueils, il ne faut pas non plus imaginer, quand on dit le double du mort, qu'ils vont lui ressembler. En fait, d'un point de vue idéal, le cercueil anthropomorphe, il va en fait représenter la personne. Donc, en fait, il permet déjà de distinguer si c'est un homme ou si c'est une femme, notamment avec la couleur. C'est souvent en fait la couleur qui nous permet de le savoir. Parfois, aussi, on a la forme de la chevelure. Les Égyptiens aiment bien utiliser des codes. Donc, on va avoir un code de couleur particulier, plutôt brun-rouge pour la peau des hommes et plutôt jaune pour la peau des femmes. Et donc, comme je le disais, en fait, on a une espèce d'idéal. Ce ne sont pas des portraits qui sont réalisés. En fait, on comprend enfin, la personne sous des traits relativement jeunes, même si elle est décédée aux alentours de 60 ou 70 ans. Et même de la même façon, quelquefois, on a des portraits de jeunes Égyptiens, d'enfants, d'adolescents. C'est plutôt des adultes miniatures qui vont être représentés que vraiment une recherche des traits d'enfants, donc qui sont plus caractéristiques de leur âge. Donc voilà à peu près voilà, ce que je peux vous dire là-dessus.
Alors les cercueils, vous nous l'avez dit, donc ce ne sont pas des sarcophages. Les sarcophages, on l'a bien compris, sont plutôt en pierre. Là, ce sont des cercueils donc en bois. Et vous nous avez dit aussi, c'est des découvertes comme celle-là, Amandine Marshall. Ce qui fait sa rareté, c'est le nombre. Hein, c'est le fait qu'on en ait trouvé autant.
Alors c'est le nombre, c'est la qualité. C'est aussi le fait que des cercueils qui ont été découverts inviolés, parce que ça peut arriver aussi qu'on en trouve qui soient de belle qualité, qui n'aient pas été emportés par des voleurs. Parce que ça ne les intéressait pas plus que ça, mais qui était en fait découvert par d'autres. Là, ce n'est vraiment pas le cas. C'est une découverte donc qui est exceptionnelle par le nombre, par la qualité, par les tailles, par le fait que en fait, on va apprendre du coup beaucoup de choses, à la fois par ce qui est marqué sur ces cercueils. Ils vont en fait nous en donner des informations sur les métiers, notamment les fonctions qui étaient occupées par ces personnes. Et puis à l'intérieur, il faut bien imaginer qu'on va avoir des corps momifiés. Alors, plus ou moins bien conservés, ça on le verra au moment où ils seront révélés, étudiés. Mais en fait, on va vraiment avoir des renseignements à tout niveau. D'abord sur donc le métier et la fonction de la personne, et puis sur la personne en elle-même, éventuellement aussi des maladies qu'elle a pu avoir. Ça, c'est à l'étude des momies qui le révélera.
Et donc, on imagine derrière ces découvertes qu'il va suivre un long travail d'examen, un minutieux travail pour découvrir tout ce que recèlent ces cercueils. Hein.
Oui, bien évidemment, et je pense que c'est ça qui est passionnant aussi, c'est que bon, il y a cette partie donc de fouilles archéologiques où bien évidemment on a des attentes, mais elles sont pas toujours satisfaites. C'est vrai que moi, par exemple, une année sur le site du Ramesséum, ça arrivait que pendant 9 jours avec mes ouvriers, on était sur un secteur, mais rien, mais même pas un morceau de poterie, on ne trouvait rien. Et donc, bon, ça, c'est aussi une réalité du terrain. On n'est pas toujours en train de trouver quelque chose. Donc là, c'est bien parce qu'effectivement, non seulement ils ont trouvé, mais ils ont trouvé de belles choses. Et après, donc, il y a une seconde partie qui est la partie qu'on appelle post-fouille, où effectivement, on a plusieurs spécialistes donc d'horizons différents qui vont étudier l'ensemble de ce qui a été trouvé.
Et alors, vous nous l'avez dit, hein, il a été trouvé des momies à l'intérieur. Est-ce que ça nous donne une indication de la catégorie des personnes décédées?
Alors oui, en fait, jusqu'à la basse époque, c'est vraiment une période de transition par rapport à la momification. Jusqu'à la basse époque, c'est extrêmement rare, en fait, que les gens puissent se faire momifier. Il faut imaginer qu'à peu près sur 100 personnes, on en a 2, maximum 3, qui vont avoir les moyens de se faire momifier. Parce qu'une belle momification, c'est 70 jours de travail, c'est plusieurs embaumeurs à payer, c'est beaucoup de produits, notamment des produits qui sont onéreux, comme par exemple le natron, qui est une espèce de gros sel qu'on va trouver sur les bords du lac Natroun, qui est à peu près à mi-chemin entre Alexandrie et le Caire. C'est le seul endroit d'Égypte où on en trouve. Donc c'est vrai que quand on est dans le sud, c'est forcément un produit qui va coûter cher. Et donc, pour toutes ces raisons, finalement, économiques, il y a très peu de gens qui ont les moyens de se faire momifier. À partir de la basse époque, surtout de la fin, les choses commencent à changer parce que les embaumeurs ont découvert des techniques qui sont beaucoup plus simples, qui sont plus expéditives, il faut le dire aussi, et qui donnent, alors, sur le moment, en tout cas, de bons résultats. C'est-à-dire que, finalement, dans un laps de temps beaucoup plus court et avec beaucoup moins de moyens, on peut quand même momifier les gens. Donc, sur le moment, on peut rendre une bonne momie à la famille, sauf qu'on a pu nous se rendre compte que finalement, ces momies, elles n'étaient pas très très bien au fil du temps. Souvent, on va se les retrouver d'ailleurs à l'état plutôt squelettique que vraiment à l'état de momie. Mais bon, ça, à l'époque, ils n'avaient pas forcément le recul pour pouvoir le savoir. Mais en tout cas, à l'époque de cette découverte, c'est vrai qu'on est encore en train de tâtonner pour trouver... Donc, d'autres techniques. Donc là, on est sûr, notamment par rapport à la qualité des cercueils, qu'il s'agit vraiment des gens, des élites qui ont été inhumés dans ces cercueils.
Et alors, évidemment, tout le monde a la question sur les lèvres. Amandine Marshall, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient, hein, vous êtes docteur en égyptologie, on l'a compris, vous en savez des choses. La momification, est-ce qu'on sait à quoi ça servait?
Alors en fait, si on veut être honnête, non, parce que pendant très longtemps, on a cru et on a dit une énorme erreur que parfois j'entends encore, qui me fait un peu bondir, à savoir que la momification, c'était la condition pour accéder à l'au-delà. Sauf que c'est complètement aberrant, parce que on a une croyance qui s'est développée à la fin du prédynastique, donc aux alentours de 3000 à peu près avant Jésus-Christ, qui montre, ou même un peu avant, qui montre que l'ensemble de la population a cette croyance d'une seconde vie dans l'au-delà. Et au fur et à mesure du temps, on a effectivement des textes qui vont venir construire un petit peu cette idée. Ce devenir funéraire, et on voit qu'effectivement, il est un peu conditionné par les bonnes actions ou les mauvaises d'ailleurs, qui vont empêcher cet accès. Donc de la personne durant sa vie terrestre, à partir du Nouvel Empire, à la basse époque, ce qu'on croit, c'est qu'effectivement, il faut qu'on passe devant le dieu Osiris, devant plusieurs juges, 42 juges, c'est pas rien, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, c'est le cœur qui en fait va révéler les bonnes actions et les mauvaises actions de la personne en étant pesée sur un plateau particulier, sur une balance, qui est la balance de Maat, qui est la déesse de la justice, de l'ordre, de l'équilibre. Donc sur un plateau, on a le cœur de la personne. De l'autre côté, on a la plume symbolique de Maat. Et en fait, si le cœur est plus lourd de fautes, du coup, la personne ne pourra pas accéder au royaume d'Osiris. Si la personne, au contraire, a été beaucoup plus gentille, bienveillante de son vivant, elle pourra. Et en fait, la momification n'avait absolument rien à voir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, s'il y a eu un impact, ne serait-ce que donc, si on n'est pas les moyens de se faire momifier, on ne peut pas accéder à l'au-delà. Ça serait vu au niveau des tombes. Or, au niveau des tombes, même des tombes les plus modestes, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des offrandes, notamment des offrandes de plats qui évoquent, en fait, des offrandes alimentaires. On a des offrandes de bijoux, on a des offrandes d'amulettes, notamment. Alors, une amulette en faïence, ça coûte rien. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que même quand on trouve des tombes qui ont été pillées, les objets en faïence, on va les retrouver. Et on voit bien qu'en fait, du côté du menu peuple, cette croyance, il n'y a pas eu un moment où elle a été freinée, que cette croyance, elle continue à être vive. Alors après, c'est vrai que la question peut se poser, est-ce que les riches allaient finalement dans le même au-delà que les pauvres? Ça, c'est une question qui va rester, je pense, ouverte pendant très longtemps. Mais par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que tout le monde avait cette conviction que, en étant bon sur Terre, on pouvait aller dans l'au-delà, et quelqu'un qui n'était pas et qui se faisait momifier, ça ne changeait rien pour lui. Donc après, c'est qu'à quoi... À quoi servait exactement la momification? Voilà, comme je le disais, en fait, on ne le sait pas. C'est un luxe, ça c'est sûr. Bon, se dire que quand même on va perdurer dans le temps, c'est pas rien non plus. Par contre, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonnée quand j'ai travaillé en thèse sur les enfants d'Égypte ancienne, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait des enfants d'élite, genre un fils de vizir, par exemple. Donc, des enfants qui étaient dans des milieux qui étaient vraiment aisés, et dont les parents n'auraient eu aucun problème à momifier leur enfant, et ils ne l'ont pas fait. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y avait une raison qui n'était pas d'ordre affectif, mais qui se situe ailleurs, de la même façon qu'on n'a pas de vase canope qui accompagne les enfants, que c'est très rare qu'on ait une stèle funéraire avant l'époque gréco-romaine pour les enfants, et qu'en fait, il y a des choses qui finalement font partie du mobilier d'accompagnement, on va dire, du mort, un peu du trousseau, on va dire, funéraire du mort, qu'on ne donne pas, en fait, aux enfants. Et franchement, je suis moi convaincue que ça n'a absolument rien à voir avec l'affection qu'on pouvait lui porter, qu'en fait, ce choix réside ailleurs. Et c'est donc notamment le cas pour la momification. Et donc, si vraiment ça avait été une condition pour accéder à une seconde vie, bien évidemment que ces gens-là auraient momifié aussi leurs enfants.
Bon, on voit que le mystère reste entier. Amandine Marshall, je voulais vous interroger aussi sur la fascination tout de même que l'Égypte exerce encore sur nous. Je crois que vous, c'est en classe de 6e que vous avez eu la conviction et l'envie de devenir égyptologue.
Avec le programme en 6e et puis une visite au musée Georges Lavie de Toulouse, qui est petit mais qui a vraiment de très 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 beaux objets, donc je le recommande vivement.
Pour quelles raisons l'Égypte nous fascine encore autant?
Alors en fait, comme on m'a déjà posé la question, c'est que du coup je m'étais un peu penchée sur le sujet. Alors il y a le « nous fascine » de façon vraiment générale, universelle, et puis le « nous fascine » en France. Je pense qu'en France, il faut quand même savoir qu'on est le premier pays au monde à être autant en fait intéressé, mais même devant l'Égypte, hein, c'est fou, par justement le patrimoine antique égyptien. La France est un pays de patrimoine, est un pays d'histoire. On ne peut pas faire plusieurs kilomètres sans tomber sur un musée, tomber sur un site, que ce soit de la préhistoire, de l'Antiquité, d'époque gallo-romaine, du Moyen-Âge, de la Renaissance. La France a eu très tôt à cœur de mettre son patrimoine en valeur, de s'intéresser justement à l'histoire de ce patrimoine. Donc de façon générale, les Français ont quand même un lien très fort et très particulier avec l'histoire. Après, avec l'Égypte, bah, effectivement, bon, il y a quand même la campagne de Bonaparte qui a amplifié les choses. On a quand même été le premier pays à être impacté par une vague d'égyptomanie, donc à l'époque de Napoléon. C'est quand même pas rien. Et puis après, bon, on a aussi été un des premiers pays à tout simplement inclure dans le programme scolaire l'Égypte, ce qui n'a pas, voilà, ce qui n'a pas été le cas forcément partout. Et puis après, bah, c'est vrai que c'est une situation qui est quand même assez extraordinaire et qui surtout, en fait, je pense, par rapport à une autre situation aussi extraordinaire hein, qu'est la Mésopotamie, bah, la Mésopotamie a finalement laissé très peu de traces. Alors qu'en Égypte, c'est vrai que bah, quand on se promène un peu partout dans le pays, on voit des traces qui sont tangibles et puis des traces... qui en fait vraiment nous permettent de comment dire mieux saisir, de mieux voir, de un instant en fait pouvoir s'imaginer se retrouver à cette époque-là. Et on parle d'époques qui ont 4000 ans, qui ont 5000 ans. Donc je pense qu'en fait c'est ça qui fait aussi que c'est fascinant, parce que bah, les pyramides c'est quand même incroyable, que c'est particulièrement impressionnant, que le Sphinx il est aussi très impressionnant par voilà sa taille absolument incroyable, que bah, les momies ça fascine, bien sûr ça laisse pas indifférent.
Alors, je vais devoir, malheureusement, on va devoir se quitter. Vous en avez des choses à dire, tellement votre savoir est immense sur l'Égypte. J'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ont été passionnés par cet entretien à vous retrouver. Vous avez deux chaînes YouTube, Toutankhamon, Nefertitube. On en reparlera et on vous réinvitera pour en parler. Et puis, vous avez des livres aussi, hein, les contes de Thoth, fables, contes et mythes de l'Égypte antique. Un grand merci, Amandine Marshall, pour ces explications. Vous êtes docteur en égyptologie, passionnée et passionnante.
Merci à vous.